Alors, j'aimerais prendre un passage avec vous qui se trouve dans Hébreux. On va lire Hébreux chapitre 10 et versets 1 à 10. Hébreux chapitre 10. Et versets 1 à 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, encore, nous venons à toi, Seigneur, parce que c'est de toi que viennent toutes choses, les sources de la vie. Et Seigneur, que tu veuilles bénir ces instants, s'il te plaît, que tu fasses grâce et que tu me caches derrière toi, Seigneur. Et merci parce que c'est toi qui es Dieu, tu règnes, tu es souverain sur toutes choses, Seigneur, et nous te glorifions, Seigneur, parce que nous t'appartenons et parce que nous savons que tu es avec nous. Seigneur, bénis ces instants, bénis ta parole, bénis et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu avait expliqué au peuple juif que le seul moyen d'être pardonné de leurs péchés, s'ils voulaient être pardonnés, s'ils commettaient une faute, eh bien, c'était de venir avec un sacrifice animal et d'offrir un animal innocent, une bête innocente. Le sang coulait, Dieu voyait le sang et il couvrait le péché des juifs. En fait, il n'était pas réellement, le pardon n'était pas encore effectif. Pourquoi ? On l'a lu, parce que le sang d'un animal ne pouvait pas purifier réellement des péchés. Donc les animaux qui étaient sacrifiés n'étaient qu'une image du sacrifice parfait qui allait être accompli plus tard, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc les Juifs attendaient, sans le savoir, ils attendaient ce sacrifice plus parfait. Ils attendaient le Messie, mais ils n'avaient pas encore conscience que le Messie allait offrir sa vie. Et c'est que ce serait lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors, lors de son incarnation, il a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus a dit « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit parfait pour pouvoir réellement recevoir un pardon qui soit parfait, total. Et donc, les sacrifices d'animaux n'étaient qu'en prévision de ce sacrifice ultime, celui de Jésus-Christ. C'était le seul moyen pour que Dieu puisse réellement pardonner tous ceux qui allaient croire en lui. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Jésus a dit, on a lu ensemble dans ce passage, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Dieu le Fils est venu volontairement pour faire la volonté de Dieu le Père. Et donc c'est son Père qui a décidé et lui a dit « D'accord, je viens. » Volontairement, hein, il n'a pas été forcé, mais volontairement il a dit « Je viens pour faire ta volonté. » Est-ce que faire la volonté de quelqu'un, c'est quelque chose de facile ? Vous me répondrez peut-être « Ça dépend. » Hein ? Parfois oui, parfois non, ça dépend. Quand c'est quelque chose qui n'est pas contraignant, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et c'est souvent comme ça. Quand on se retrouve devant la volonté de quelqu'un d'autre à faire, très souvent, si ce n'est pas contraignant, on accepte. On accepte. Mais si ça nous dérange, on peut avoir envie de dire non. Certains ont du mal à dire non. Et d'autres n'ont pas de mal à dire non. C'est curieux, c'est comme ça. Hein. D'autres ont du mal à dire aussi « oui, je veux bien le faire ». Oui, je veux bien le faire. Et la volonté de Dieu le Père pour Jésus était contraignante. Elle était difficile. Quand on y pense, il s'agissait d'accepter de descendre sur terre, de se dépouiller de sa divinité, de prendre un corps d'homme, d'être diminué, et puis d'aller vers une peine, vers une condamnation. C'est quelque chose de terrible. Comme un coupable. Lui qui était pur, qui était parfait, qui était innocent, il devait accepter de descendre et subir l'opprobre, la honte d'un coupable. Le rejet, le jugement d'un coupable. Et ce n'était pas vraiment quelque chose de facile, bien sûr. Ça arrive qu'un homme soit victime d'une erreur judiciaire. Je regardais un petit peu et je voyais que en une trentaine d'années, il y a eu près de 2000 erreurs judiciaires aux États-Unis. Donc des gens qui n'avaient rien fait et qui ont passé parfois 30 ans, voire plus, en prison. Nous aussi, on a nos erreurs judiciaires. Hein, parfois, on s'aperçoit qu'on s'est complètement trompé. Surtout maintenant qu'on a les tests ADN, on s'aperçoit, mince, c'était pas lui en fait. Hein. Et c'est comme ça qu'il y a des innocents qui, imaginez, vous êtes innocent, vous êtes en prison. Et parfois, certains font une grève de la faim. Parfois, d'autres sont tentés même de se suicider. Parce qu'ils ne tiennent pas le coup, ils n'en peuvent plus, ils sont innocents. Et Jésus a accepté cela, lui, innocent. Quand Dieu le Père lui a demandé de s'offrir en sacrifice pour nous, il a dit « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Jésus savait qu'il allait être battu, fouetté, humilié, cloué sur la croix. Il le savait, c'était le prix à subir, mais il n'a pas reculé. Il a dit « Voici, je viens, j'accepte ». La peine du coupable. J'accepte la peine du coupable. Et la volonté de Dieu, elle n'est pas forcément quelque chose de facile. Oui, Dieu est bon. Il est bon, c'est sûr, on en est convaincu. Dieu est amour. C'est quelque chose d'incontestable. Mais ça ne veut pas dire que sa volonté, elle est facile à faire. Sa volonté, parfois, elle peut être quelque chose de très difficile. Regardez, Jésus, quand il est dans Gethsémané, c'est pas facile. Quand il a supplié son Père de l'épargner de la croix, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » C'était pas facile, c'était dur, c'était même contre sa volonté pendant un instant. À ce moment-là, dans le jardin, s'il y avait une possibilité, il aurait aimé fuir et ne pas faire ce qui était la volonté de Dieu. Mais c'était pas possible. La volonté de Dieu était devant lui, et il fallait maintenant qu'il aille jusqu'au bout. Il fallait obéir. Alors notre Seigneur a dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est dur, Seigneur, ma volonté est autre chose, mais la tienne, je l'accepte. Si c'est ta volonté, je l'accepte. » Le Fils de Dieu a renoncé à sa volonté propre et il a accepté de faire la volonté de son Père. Il a cédé, il s'est courbé. Est-ce que Dieu lui demandait quelque chose de mauvais, quelque chose qui était insensé, quelque chose qui était inutile? Non, c'était le meilleur que Dieu était en train de lui demander. C'était certainement très dur, mais c'était le meilleur. Parce que c'était le seul moyen, il n'y en avait pas d'autre, de racheter des milliards de pécheurs, de créatures qui avaient péché et qui étaient coupées de Dieu. C'était merveilleux en fait, c'était le meilleur moyen. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quand on dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, souvent on dit donne-moi d'abord la mauvaise puis après la bonne. Alors je vous donne la mauvaise d'abord. La mauvaise, c'est que Dieu a une volonté pour vous. Et que on se dit je suis libre. Non, je ne suis pas libre. Dieu a une volonté pour nous. Et il est Dieu, il est Dieu. Et la bonne, c'est que Dieu a une volonté pour nous et c'est le meilleur. Ça, c'est la bonne. Sa volonté, c'est le meilleur. Il n'y a pas mieux. C'est le meilleur pour notre vie, c'est le top. Et on est heureux quand on fait la volonté de Dieu. C'est là où on est heureux. On est malheureux comme un chien en cage si on ne fait pas ce qu'il veut. Et on est heureux quand on est dans son sentier, qu'on fait exactement ce qu'il veut. Finalement, on gagne toujours à faire ce que Dieu veut. Maintenant, le fait que Dieu ait une volonté pour nous, ça ne nous oblige pas à le faire. Parce qu'on est toujours libre, on est des créatures libres, donc on peut obéir ou désobéir. Et là, vous voyez, le monde, hein, il y a des millions et des millions de gens qui désobéissent sans cesse, hein, qui ne se soucient pas un instant de la volonté de Dieu. Ils se lèvent le matin, ils ne cherchent pas, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Non, ils font leur propre vie, donc voilà, on est libre d'obéir ou de désobéir. Mais si on veut lui plaire, si on veut réussir sa vie, et réussir sa vie, ça ne veut pas dire prospérer matériellement, mais réussir sa vie spirituellement, c'est-à-dire voilà, être transformé et préparé pour le ciel. Et si on veut gagner du temps, alors on a tout intérêt à chercher la volonté de Dieu. Alors j'aimerais ce matin qu'on réponde à cette question, pourquoi faire la volonté de Dieu? Si finalement je peux désobéir, si je suis libre, pourquoi chercher à faire la volonté de Dieu? Premièrement, parce que ça plaît à Dieu et que en le faisant, Dieu change notre cœur. Dieu change notre cœur. Regardez Actes 13, versets 21 à 22. Actes 13, versets 21 à 22. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et dans ce passage, on voit le roi David, il avait un cœur selon le cœur de Dieu, il accomplissait toutes ses volontés, ou plus littéralement, c'est toute sa volonté. Et pour plaire à Dieu, eh ben, c'est important qu'on apprenne à faire toute sa volonté, la totalité. Parce que normalement, si on est ici, c'est qu'on a envie de faire sa volonté. Logiquement, hein, quand on vient rendre culte à l'Éternel, c'est pour faire sa volonté, ou on a envie de savoir quelle est sa volonté, de s'approcher de sa volonté. Voilà, on veut connaître Dieu. Le fait que nous sommes là prouve que, eh bien, la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est important dans notre cœur. Mais est-ce qu'on est prêt à faire toute la volonté de Dieu, la totalité de la volonté de Dieu? Parfois, on fait la volonté de Dieu dans les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est faut pas tuer, faut pas voler, et puis il faut essayer d'être bien avec tout le monde, quoi. Être généreux, être bienveillant, dans les grandes lignes. Mais faire toute la volonté de Dieu, c'est aussi faire la volonté de Dieu dans les détails de notre vie, dans toutes les décisions de notre vie. Ça peut être en dehors des choses qui sont spirituelles, dans les activités, notre quotidien, dans notre emploi du temps, dans nos relations, dans notre manière de gérer notre argent, dans le choix de nos vacances. C'est faire la volonté de Dieu, c'est « Seigneur, que veux-tu ? Que veux-tu ?» Toute la volonté de Dieu. Pour faire toute la volonté de Dieu, eh bien, il faut faire comme le Seigneur. Il faut renoncer à sa volonté propre. Parce qu'on a toujours une volonté propre. Et c'est ça qui est très dur. Et le roi David, il est pour nous un exemple dans ce domaine. C'est Dieu, vous imaginez ça, c'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage de cet homme. Et il a dit de lui, cet homme fait toute ma volonté. Incroyable. Incroyable. Quel exemple pour nous. On a lu tout à l'heure un passage dans Hébreux. Mais vous savez que ce passage d'Hébreux, en fait, il est tiré d'un psaume. C'était un psaume prophétique écrit par David. Et donc, c'est David qui a écrit, donc 1000 ans avant Jésus-Christ, il a dit, « Voici, je viens, je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Psaume 40. C'est lui qui a dit, « Je veux faire ta volonté, Seigneur. » Dans un autre psaume, David dit encore, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et donc, David cherchait à faire toute la volonté de Dieu. Et normalement, faire toute la volonté de Dieu, c'est aussi l'objectif du chrétien. C'est ce qu'on vise, nous, enfants de Dieu qui le connaissons. C'est la manière la plus évidente de dire « Seigneur, je t'aime. Je t'aime. » Et David a eu bien des occasions où, franchement, il pouvait être tenté aussi de faire sa propre volonté. Parce que la vie, c'est ça. On est sans cesse confronté à des fourches, à des carrefours où il y a plusieurs directions. Et voilà, qu'est-ce que je choisis ? Ma volonté, la volonté de Dieu. Ma volonté, la volonté de Dieu. Ça se présente sans cesse. Et vous connaissez l'histoire de David. Donc Dieu va le chercher dans les bergeries de Bethléem pour le faire roi d'Israël. Le prophète Samuel va donc aller dans la famille d'Isaïe, son père. Et quand il le voit, Dieu dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Alors Samuel prend une corne d'huile, il va répandre de l'huile sur sa tête, puisque c'était la manière de oindre un roi. Et de le faire roi de manière officielle. Et donc, ça va être lui le futur roi. Mais combien d'années après ? Combien d'années après ? Il va d'abord être haï, persécuté par Saül, le roi en place, le premier roi. Et David ne va pas se rebeller une seule fois contre lui. Il va même épargner le mauvais roi Saül, par crainte de toucher à loin de l'Éternel. Il ne va pas le toucher. Ces hommes, les hommes de David, poussaient à tuer Saül, à se venger de sa méchanceté. Et David l'épargne à cause de Dieu, parce qu'il craint Dieu. Il craint Dieu, il veut plaire à Dieu, il veut faire toute sa volonté. C'est ce qui comptait pour lui. Après, un peu plus tard, David rate la volonté de Dieu. L'épisode avec Bathsheba, donc il va commettre un meurtre, tuer un de ses soldats, prendre sa femme. Et c'est sûr que ça peut arriver de rater la volonté de Dieu. À un moment, hop, on prend la mauvaise sortie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? David est tombé et Dieu lui a envoyé Nathan, le prophète. Et Nathan lui a reproché, il lui a dit que c'était pas bien. Et quelle est la réaction à ce moment-là de David ? Immédiatement, oh, je me repens. Il est abattu. Il a manqué la porte. Et là encore, on voit son cœur, on voit c'est un homme qui veut faire toute la volonté de Dieu. Parce que même quand il se trompe, tout de suite, il se repent, il reconnaît et il reprend le chemin que Dieu a tracé pour lui. Enfin, David a la bonne pensée de faire un temple pour l'Éternel. Il se dit, je veux faire quelque chose de magnifique pour mon Dieu, vraiment, un temple pour l'Éternel. Et même Nathan, le prophète, lui dit, c'est bien, fais tout ce que tu as dans ton cœur, vas-y, fais-le. Et Dieu lui dit, ce ne sera pas toi qui me bâtiras un temple, mais ce sera ton fils Salomon. Et qu'est-ce que fait David ? Il se courbe. Encore là, il se courbe. Il voulait faire quelque chose de magnifique pour son Dieu. Dieu lui dit, non, tu ne vas pas faire ça, c'est ton fils. Parce que ma volonté est différente pour toi. Il accepte, il s'incline. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va préparer les matériaux pour que son fils puisse faire le temple. Il ne va pas rester en dehors. Non, il va s'impliquer, mais pour faire ce que Dieu veut. Pourquoi faire toute la volonté de Dieu pour devenir, comme David, un homme selon le cœur de Dieu ? On ne peut pas plaire à Dieu si on fait notre propre volonté. Ou en mélangeant un peu de notre volonté et un peu de la volonté de Dieu. Et voilà, on fait un mix. Et c'est malheureusement ce qu'a fait son fils Salomon. Il a fait la volonté de Dieu puisqu'il a bâti le temple selon ce que Dieu voulait. Mais en même temps, il n'a pas fait toute la volonté de Dieu. Et regardez 1 Roi 11, 1 Roi 11 et verset 4. Il dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et là, on voit la différence entre le père et le fils. L'un est tout entier, parce qu'il veut faire toute la volonté de Dieu. L'autre n'est pas tout entier, il ne fait qu'une partie de la volonté de Dieu. L'un termine bien sa vie, l'autre termine mal. Pourquoi encore faire la volonté de Dieu ? Pour trouver l'exaucement de nos prières. Jean 9, verset 31. Jean 9 et verset 31. Il dit ici, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Alors, qui dit ça ? Ici, c'est une parole de l'aveugle-né. L'aveugle-né qui a été guéri par Jésus. Lorsque les religieux vont vouloir nier le miracle de Jésus, l'homme guéri par Jésus va défendre Jésus par ses paroles en disant mais nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Il voulait dire, mais en fait, Jésus, il ne peut pas être du péché. Ce n'est pas possible. Regardez, il m'a guéri. Et c'est une parole de sagesse. Même si cet homme n'était pas un prophète de l'Éternel, il était en train de dire une parole vraie. Dieu exauce celui qui l'honore et qui fait sa volonté. Et c'est une bonne raison de renoncer à sa volonté propre. Pourquoi je ne veux pas faire ma volonté ? Parce que j'ai envie que Dieu réponde à mes prières. S'engager de tout son cœur pour l'honorer et faire toute sa volonté. Et Dieu ne bénit pas la désobéissance. Le psaume 66 nous le rappelle, le psalmiste s'est écrié « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Et c'est toujours dans la volonté de Dieu qu'il y a des grands exaucements. C'est dans l'obéissance, on peut dire que les choses, elles bougent. Dieu, bien sûr, il fait grâce, et heureusement, il fait grâce, parce qu'on est des pécheurs et que parfois on désobéit. Mais il fait grâce sans cesse, mais c'est aussi, d'une manière générale, dans l'obéissance que Dieu, est libre d'exaucer. Dieu n'exauce pas le pécheur. Regardez ce verset, dans Isaïe 59, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire le péché est comme un mur et Dieu refuse d'écouter. Il ne veut pas écouter. C'est ce qu'il a dit à Israël. La désobéissance, elle bloque la prière. À ce moment-là, ça ne dépasse pas le plafond de la chambre. Et on peut réclamer, demander, supplier, mais il faut d'abord accepter sa volonté. Apprendre à demeurer en lui, à ne faire que ce qui lui plaît. Quand vous lisez, il y a des merveilleuses promesses en ce qui concerne l'exaucement. Par exemple, en Jean 15, verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est une belle promesse, ça. « Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Mais il dit « Si vous, alors demandez et ça, cela vous sera accordé. » Et quand on ne remplit pas le « si vous », l'exaucement ne peut pas suivre. Vivre dans sa volonté, dans ses désirs, dans ses pensées, quand on est entier à l'Éternel, alors, exaucer, ça devient une évidence. Parce qu'on commence aussi à prier ce que Dieu veut. Quand vous regardez des hommes de Dieu par le passé qui parfois ont écrit des livres que sur des exaucements, comme George Muller, Murray McShane, Hudson Taylor, ils n'étaient pas, c'était pas dans la désobéissance qu'ils ont reçu tous leurs exaucements. C'est bien évident que, eh bien, c'est parce qu'ils étaient dévoués, parce qu'ils étaient consacrés, parce qu'ils obéissaient au Seigneur. Alors, ben, Dieu aussi pouvait se servir d'eux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors Dieu exaucé. Enfin, pourquoi chercher à faire la volonté de Dieu pour porter du fruit ? Jean 15 et verset 4. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne demeurez en moi. Et on ne peut pas porter du fruit si on ne demeure pas attaché à Jésus comme un sarment est attaché à son cep. Un sarment qui ne veut pas rester collé à son cep, eh ben, il devient inutile. Il ne peut plus porter du fruit. On a un pied de vigne à la maison et à chaque printemps, on essaye d'attacher un peu les quelques sarments qui poussent parce qu'avec la trame qui souffle, parfois il est bien exposé et hop, les sarments se cassent, hein, s'arrachent parfois ou pendent par un fil et là c'est fini, c'est terminé. Il n'y aura pas de fruit, impossible. Impossible. Forcément, la sève, elle ne peut plus monter dans le sarment. Et donc, il n'y a plus de fruits. Et nous, en dehors de la volonté de Dieu, ben, Dieu ne peut pas faire son œuvre. Et voilà, ça ne peut plus monter. Parce qu'on ne peut pas nous-mêmes engendrer du fruit. Ce n'est pas possible. Et un danger de la vie chrétienne, c'est aussi l'activisme charnel. On fait. Mais en étant coupé du cep, on fait dans le vide. On agit, mais on ne demeure pas en lui. Et finalement, parfois sans s'en rendre compte, c'est notre volonté propre qui nous anime. C'est notre volonté qui nous pousse à faire. Parfois même, on fait bien plus que ce que Dieu veut. Et on n'a pas le résultat escompté. On ne porte pas de fruit. Pourquoi ? Parce que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit. Ce n'est pas possible. Impossible. Même s'il essaye, même s'il fait tous ses efforts, essayer de faire monter le peu de sève qu'il a en lui, il ne portera pas de fruit. Ça ne fonctionnera pas. Il faut demeurer dans la volonté de Dieu pour pouvoir porter du fruit. C'est une condition sine qua non. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, a prié que les chrétiens... Donc, Paul prie, il dit que les chrétiens connaissent la volonté de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable et porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc qu'ils connaissent la volonté de Dieu afin qu'ils puissent faire ce que Dieu veut et qu'ils puissent porter les fruits que Dieu veut. Et le fruit ne vient pas de nos propres plans. Ça ne vient pas de nos idées, ça ne vient pas de nos désirs, de notre volonté. Ce n'est pas ça qui amène le fruit. On peut remuer le ciel et la terre, ça n'amène rien. Ça n'amène rien. Je me souviens, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'évangéliser tous les villages de Seine-et-Marne. Et donc, il a rassemblé une équipe. Je sais parce que j'étais dans l'équipe. Et nous voilà en train de parcourir toutes les routes de Seine-et-Marne avec une voiture pour aller frapper à la porte des mairies et demander s'ils voulaient bien nous prêter une salle pour projeter le film Jésus. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Bon, ça permettait de discuter sur la route. Et puis, après, j'ai reçu toutes les lettres. Non. Finalement, l'initiature du projet s'est découragée parce que ça revenait trop cher et ça servait à rien. Voilà. Quand on prend une décision et on ne fait pas ce que Dieu veut, on perd du temps. Parce que Dieu veut qu'on reste dans sa volonté. Et il ne bénira pas ce qui vient de notre volonté. Il est même obligé de ne pas bénir. Il est obligé. Pourquoi ? Parce que sinon, on ne finirait par faire que notre volonté. Si Dieu bénissait notre volonté propre, mais ça nous lancerait dans cette voie-là. Et en plus, on pourrait en tirer gloire pour soi-même. Tandis que lorsque on s'épuise dans notre propre volonté, eh bien, on finit par ne plus vouloir que la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu nous laisse, hein, et ça concourt à notre bien, ça nous sanctifie, ça nous transforme. Et puis, on finit par n'aimer que la volonté de Dieu et ne faire que les choses pour lui, pour sa gloire. Pourquoi faire la volonté de Dieu? Pour porter du fruit. Et Jésus, lui, n'est pas resté sans fruit. Parce qu'il a dit, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il est mort à lui-même, il est mort à ses désirs, mort à ses envies, à sa volonté personnelle. Il a choisi d'épouser la volonté de Dieu, de l'aimer, de vouloir la faire. Il a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'était son seul, son unique but durant tout son séjour sur terre, ne faire que la volonté de Dieu. Il est allé jusqu'au bout et il a porté beaucoup de fruits. Quand on meurt à soi-même et qu'on va jusqu'au bout, alors eh bien, on porte beaucoup de fruits. Et Dieu a une volonté pour nous. Et c'est le meilleur. Il n'y en a pas de meilleur. Quand bien même, c'est difficile de renoncer à sa volonté propre. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir finalement. C'est de renoncer à sa volonté propre. Ça, c'est terrible pour nous. Renoncer à ce que le moi a envie de faire. Mais quand on a tout cédé au Seigneur et qu'on a renoncé à sa volonté propre, alors on entre et on goûte, on fait qu'effectivement la volonté de Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Est-ce qu'on est prêt à dire, comme Jésus a dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ?»